Bonjour à tous et bonjour à toutes. Heureux de vous retrouver sur Radio Judaïque à Strasbourg. Notre invité aujourd'hui, Maurice Dahan, le président du consistoire israélite de Strasbourg et également le président du consistoire du Bas-Rhin. J'ai envie de vous demander, comment allez-vous d'abord ?
Écoutez, je vais très très bien.
Oui.
Et j'espère que tous les auditeurs vont également très bien. Hein. Et je vous remercie de vous préoccuper de mon état de santé.
Ça nous fait plaisir. Maurice Dahan, cette semaine, la semaine dernière en tout cas, il y a eu un terrible tremblement de terre au Maroc. Beaucoup de nos coréogénaires sont marocains. Vous avez, je crois, aussi des origines marocaines. Quel est votre sentiment personnel et celui que vous avez en tant que président ?
Écoutez, à titre personnel et même à titre de président, nous sommes là face à une catastrophe humaine qui touche essentiellement des gens qui vivaient dans des modestes conditions. On ne peut pas ne pas être solidaire de ces personnes dans cette situation.
Concrètement, ça veut dire quoi ?
Alors concrètement, nous sommes en train de travailler à l'expression de notre solidarité. Mmh. Nous sommes en train d'y travailler parce que vous avez pu constater que ce n'est pas très simple et nous souhaitons, comme dans notre campagne de collecte pour les Juifs d'Ukraine, que cet argent, si on en collectait, devrait arriver directement à des gens dans lesquels nous avons confiance et pour lesquels nous savons que nous en ferons un bon usage, à la fois pour les Juifs qui résident encore dans la région de Marrakech et à Marrakech, mais également, comme très souvent, les gens qui travaillent à Marrakech sont des gens qui viennent des montagnes alentour, la vallée de l'Aurika et cette région-là, à la porte de l'Atlas. Eh bien, ces gens-là qui travaillent et qui nous reçoivent quand on va à Marrakech, que cet argent soit distribué à ces gens-là qui en auront besoin.
Alors, je voudrais revenir sur notre interview, puisqu'elle concerne le consistoire, et dans le conir que tout le monde a reçu normalement, vous dites dans votre éditorial que vous n'avez pas envie de faire, je dirais, le récapitulatif des activités de l'année du consistoire, parce que vous en avez honte, parce qu'il y en a trop.
Non, parce que faire un récapitulatif de tout ce que nous avons fait cette année au consistoire, ça aurait été peut-être, excusez-moi d'avoir un peu le sourire en le disant, ça aurait été peut-être un peu faire dans le satisfecit. Et je crois que nous avons fait beaucoup, beaucoup d'événements tout au long de l'année, pour tous les goûts, pour tous les engagements religieux. On a fait en sorte que tous les Juifs puissent se retrouver, se rencontrer. C'était pour moi le plus grand bonheur en tant que président de voir ces choses-là devant mes yeux en me disant on est en train de toucher quelque chose.
Objectif atteint, c'est-à-dire qu'en début d'année...
Pas encore objectif atteint. Ah. L'objectif ne sera atteint que quand on aura encore fait plus.
Et c'est-à-dire que vous ne serez jamais satisfait ?
Si je suis satisfait, j'arrête de faire. Hein. Et j'encourage pas mes collègues à faire. Or, j'ai même pas besoin de les encourager à faire, ils font. Ils font et ils le font tellement bien, avec tellement de cœur, que je ne peux que saluer leurs engagements.
Toujours dans le communaire, il y a eu aussi un éditorial de Marc Serfati.
Oui.
Pour lui, c'est la maison commune.
Oui.
J'espère très bien compris ce que ça voulait dire.
Écoutez, pendant longtemps, il y avait des associations qui vivaient séparément l'une de l'autre. Il y avait des synagogues qui vivaient sans connexion. Il y avait des rabbins qui vivaient sans connexion, en tout cas apparente, les uns avec les autres. Et il est arrivé un moment où, tout d'un coup, par le fait de cette refonte des institutions qui prend forme maintenant, eh bien, chacun comprend que nous avons tous une exigence de fidélité à notre institution, nous avons tous une exigence de loyauté à notre institution, et comme ça...
C'était pas le cas avant ?
Je crois que oui, c'était le cas, mais chacun séparément. Et ils étaient tous convaincus, et ils avaient raison de l'être, qu'ils faisaient des choses pour la communauté, mais qui se résumaient, en fait, dans l'esprit, à leur action. Or, aujourd'hui, on essaye de fédérer ces actions pour que les gens puissent aller de l'un à l'autre assez facilement et que les gens puissent...
Mais ça veut dire que le consistoire ne veut plus jouer ce rôle uniquement de passeur, mais de tracteur. J'ai bien résumé?
Non, nous ne sommes pas acteurs d'activité. Nous facilitons toutes les activités à l'intérieur de notre institution. Et on n'est pas pris par une activité là où parfois on associe le consistoire, mais c'est le consistoire qui est vu aujourd'hui par toutes les associations comme étant le pivot de leurs actions. C'est pour ça que je ne parlerai pas d'acteur, parce qu'on ne s'attribue pas cette fonction.
C'est ça
que
je voulais savoir.
Non, on ne s'attribue pas cette action, cette fonction, mais d'un autre côté, ce que je pense être indispensable, c'est que nous soyons en permanence à la disposition de tous ces acteurs qui ont besoin de la force que le consistoire a pour leur permettre de réaliser leurs actions.
C'est pas une forme de dire on va tout centraliser, on devient un peu une dictature du culturel et du communautaire?
Alors je crois que non, non plus. Je crois que non. Je crois que nous ne cherchons pas...
Si les gens vous sont redevables, ce que vous avez aidé, il n'y a pas aussi une forme de...
Je vois pas... Non, attendez, je crois que c'est peut-être là le problème qui peut-être résider dans votre esprit et peut-être dans l'esprit de certains auditeurs et auditrices. On ne fait jamais les choses pour que les gens nous le rendent. Nous le faisons gratuitement. Autrement dit, ce que nous le faisons pour que on assure, on les aide à assurer la pérennisation de leurs actions, la pérennité de leurs actions. Quand une association est en panne, elle n'est pas en panne parce que ils n'ont pas d'idées. Des idées, ils en ont. Mais ils n'ont plus ou la capacité physique, humaine ou financière de mettre en œuvre.
Et Mauritain, c'est le rôle du consistoire d'insuffler...
Oui.
D'accord.
C'est ma vision en tout cas.
D'accord.
Je pense que c'était peut-être pas la vision avant moi, mais c'est ma vision parce que je pense que seul on peut parfois aller plus vite, mais ensemble, on va tellement plus loin.
D'accord, c'est-à-dire que le consistoire a des objectifs communs à c'est organiser certaines activités.
C'est comme la maison commune.
Ouais.
C'est des objectifs communs.
D'accord. Je voudrais qu'on revienne un peu, parce que vous parlez du consistoire, de votre équipe, et j'oublie chaque fois dans nos émissions de citer l'équipe qui vous accompagne. Et on va le faire par une nouveauté. Vous avez décidé désormais de sectoriser un peu les fonctions et que chaque administrateur a un rôle précis. On va dire un précaré ou être référent d'un rôle. Vous pouvez nous les définir un peu?
Alors écoutez, c'est pas très compliqué. Ce que vous dites là est à moitié juste.
Ah!
C'est-à-dire
j'ai
que...
mal lu alors.
Non, pas du tout. Vous avez très très bien lu. Ce qui n'est pas écrit, mais que vous pouvez deviner en le lisant, c'est que les rôles qui ont été distribués à chacun d'entre eux, à chacun de mes collègues, ce sont des rôles spécifiques, mais avec une transversalité permanente entre mes collègues, parce que on ne construit pas seul, on construit ensemble. Alors, je vous donne un premier exemple. Cet exemple, je vais vous l'exprimer avec encore un petit bémol. C'est-à-dire que à chaque attribution de responsabilité, j'ai demandé à l'élu de travailler avec un rabbin qui a également cette attribution de responsabilité. Je prends l'exemple, par exemple, de la jeunesse. La jeunesse est gérée par le rabbin Spingarn. Vous voyez, il vient de partir à la retraite et je...
Comme quoi, il a encore beaucoup de...
Et je parle de quelque chose qu'il a arrêté il y a 15 ans ou 20 ans.
Vous êtes en retard?
Non, pas du tout. C'est la preuve. C'est la preuve. Et ça me permet ici, maintenant, je le fais parce que Je suis sûr que ça ne lui plaira pas, mais ce n'est pas grave, je le fais quand même. Vous vous rendez compte que j'ai conservé à l'esprit une action qu'il avait faite, à savoir s'être occupé de la jeunesse pendant des années.
Effectivement.
Tout comme une action qu'il avait faite, avec laquelle il a terminé sa carrière, qui n'a pas terminé, qui n'a pas interrompu, mais il a terminé, mais il ne l'a pas interrompu, c'était l'action sociale. Eh bien, c'est ça que nous cherchons à faire. Un monsieur comme le rabbin Netter, qui s'occupe de la jeunesse, travaille avec Stéphane Geisman, à qui j'ai également donné l'attribution de la jeunesse.
Pourquoi avoir voulu faire un duo rabbin-administrateur? Ça ne se faisait jamais avant, il y avait administrateur et basta.
Je ne sais plus, je crois que c'était à la première émission à laquelle vous m'aviez invité, Jean. Hein? Vous m'avez dit, comment vous allez faire pour rapprocher les gens qui sont loin, etc. Je pense que c'est comme ça qu'on y arrive. D'accord. Il faut qu'un élu travaille avec un rabbin sur un objectif commun.
C'est toujours la même vision entre un rabbin et un élu.
L'être humain est doué de capacité de composition.
Donc, un rabbin, un élu, on peut citer les différents. Alors, je vous écoute.
Mon collègue Tristan Arama s'occupe du social et il est en permanence en relation avec le rabbin Gatzebag. Vous voyez ici à la radio le grand rabbin en permanence avec Olivier Samuel, qui a lui une attribution particulière, à savoir la communication et également le fundraising. Donc, le fundraising, c'est-à-dire trouver des sous auprès des fondations.
D'accord.
Laurent Blum, lui, travaille en permanence avec le rabbin Spingarn, avec le rabbin Gatzebag.
Ouais.
Et il s'occupe de patrimoine et la partie mémoire de l'activité culturelle du consistoire. Je pourrais donner d'autres exemples.
Oui.
Marc Sarfati s'occupe des relations avec les petites communautés et avec les comités de synagogue, avec les présidents des cimetières, sur le plan administratif, d'accord ?
D'accord.
Là où Laurent Blum travaille sur le plan patrimonial, mais il est en train de travailler avec un rabbin, ou plusieurs rabbins, pour coordonner ces petites communautés et ses responsables de cimetières.
Vous nous avez dit que le rabbin Spingarn s'en va. Y en a un qui arrive ?
Oui.
On peut en savoir plus?
Écoutez, il y en a un qui arrive, il n'est pas encore en poste.
D'accord.
Il le sera très bientôt.
On va dire avant Soukhot, c'est ça?
Je ne pense pas. Vous savez, ce n'est pas des choses qui dépendent de nous.
Ah.
C'est des choses qui dépendent d'arrêtés préfectoraux.
D'accord.
Donc, dès qu'il sera en poste, vous le saurez.
On va savoir qui c'est, comment il est.
Il s'appelle Yaakov Barshichat. Et c'est un jeune qui vient de sortir de l'école rabbinique et qui a été engagé, non pas pour succéder à, pas pour remplir la place d'eux, mais comme on a fait le choix de faire venir quelqu'un de l'extérieur, et en plus un jeune diplômé, on s'est dit que dans un premier temps, pour l'intégrer à la ville et à l'équipe rabbinique, il allait travailler en particulier avec le rabbin Gatzebag, qui a deux domaines de compétences, le social et la cacheroute, avec le rabbin Gatzebag qui le fonctionnera, tout comme on lui attribuera une communauté, parce qu'un rabbin sans communauté, c'est pas vraiment un rabbin, et il faut qu'il ait une communauté, et j'espère qu'il assumera cette fonction haut la main, comme on dit. Je crois que vous le connaissez aussi.
Un peu, oui.
Vous me piégez, là.
Non, je ne te piège pas, je vous demande un ami, donc je voulais savoir... on parle justement du social. Il y a eu cette semaine dans le Shabbat Shalom une petite explication avec quelque chose de très intéressant. Ça va rentrer dans la question générale. Des gens qui ne savent pas où aller ou qui aimeraient être visités, il faut simplement appeler les rabbins ou la communauté pour qu'ils se fassent visiter ou on consomme du chauffard. Autre idée, cette année, vous l'avez relancer l'idée d'offrir un petit kidouche le vendredi soir à l'issue de l'office du vendredi soir. Cette chose-là, avec également l'organisation des fêtes de Pessah, c'est vraiment le rôle social du consistoire ou c'est plus ?
Écoutez, le consistoire a des membres. Et parce qu'il a des membres, il ne doit pas les regarder en fonction de ce qu'ils font comme don, mais en fonction d'êtres humains auxquels il doit quelque chose. Et être présent, c'est quelque chose d'essentiel. Et si quelqu'un a besoin qu'on lui rende visite et qu'on ne le sait pas, on ne peut pas y aller.
D'accord.
Et quand on le sait, on y va. Je vous donne un exemple. Avant-hier, j'ai passé mon après-midi à faire des visites avec un rabbin dans une maison de retraite.
D'accord.
On a visité de nombreuses personnes et le rabbin a sonné le chauffard à ces gens, à chacun, chacune, ce jour-là. Ben, je crois que c'est ça l'apport du consistoire sur le plan social, c'est d'être présent. Tout comme vous avez pu lire une annonce dans le Shabbat Shalom de la semaine dernière. La semaine dernière, j'ai été au Club 3. Certaines personnes du Club 3 sont venues m'interpeller en me disant « On n'a pas où manger le soir de Rosh Hashanah.
D'accord.
Est-ce que vous voulez organiser quelque chose ?» J'ai demandé au président du Club 3 de lancer un appel à ses membres. Si il avait suffisamment de gens, on aurait organisé un repas vendredi soir, voire samedi soir. S'il n'en avait pas assez, on lancerait un appel dans le Shabbat Shalom.
Ce qui a été fait.
Pour dire aux gens qui veulent inviter de se manifester au niveau du secrétariat et des gens qui veulent se faire inviter
pareil.
De se manifester également. Et c'est notre rôle de faire la connexion.
Votre rôle, c'est de faire la connexion. Pourquoi pas organiser vous-même un repas vendredi soir, demander au
parce
club 3
que, parce qu'il y avait trop peu de gens qui étaient intéressés.
D'accord.
Ils étaient 10 seulement à être intéressés.
D'accord. Je voudrais qu'on avance un tout petit peu parce qu'on a parlé des fêtes. Je sais que vous êtes très intéressé par le domaine sécuritaire de la communauté. Il va y avoir beaucoup de monde. On sait que le premier est le président. Le ministre Darmanin a demandé aux forces de police d'être plus présents pendant les fêtes de Tishri. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil aux gens qui vont venir à la synagogue cette semaine? Ne restez pas devant le monument, partez vite, arrivez avant, je ne sais pas. Faites
alors,
attention.
Tout d'abord, avant même que le ministre, monsieur le ministre Gérald Darmanin, ait envoyé cette note à toutes les préfectures, je veux que vous sachiez que nous avions rendez-vous avec la préfecture et les services de l'État pour la sécurité. De tous nos offices qui auront lieu pendant les fêtes de Rosh Hashanah Kippour et pas qu'à Strasbourg, à Strasbourg et à la campagne.
D'accord.
Et ils nous ont assuré d'être très très proches de chaque endroit.
Mais on a un rôle nous aussi, non, pour notre sécurité.
Attendez, je vais commencer par le début. C'est-à-dire que vous avez raison, mais on est dans un état de droit. Et dans cet état de droit, c'est l'État qui est censé veiller à ma sécurité.
D'accord.
Mais l'État d'abord. Que moi, je sois prévento-conscient, c'est tout à fait normal. Mais je veux commencer par dire la chose suivante, c'est que avec la Coupe du Monde de rugby, beaucoup de forces de police sont
mobilisées
sur les stades et qu'il n'est pas impossible que parfois, certaines forces de police seront absentes. Et c'est là que vous avez raison. Il faut que nous soyons préventos-conscients. La situation n'est pas plus grave qu'avant, sauf qu'on est dans un climat en France qui malheureusement laisse la violence prendre facilement la place sur la quiétude de la société et qu'il peut se passer des choses d'un moment à l'autre. Alors, quelles sont nos consignes ? C'est toujours les mêmes. Je ne vous demanderai jamais, et je n'accepterai pas qu'on vous le demande, de fuir la synagogue après l'office.
Pas de fuir, mais de ne pas rester trop longtemps.
Peu importe. Pensez-le comme vous voulez. Moi, j'appelle ça fuir.
D'accord.
D'accord ? Je ne veux pas que les gens se dépêchent de partir parce qu'on a peur. Nous avons raison d'avoir peur, mais nous avons raison de rester vigilants. Et la vigilance, c'est pour moi l'essentiel de la preuve de notre maturité à savoir toujours faire les choses de manière naturelle, mais pas exagérer.
On a fini bientôt cette année. Y a quoi l'année prochaine au consistoire? En gros, je sais qu'il y a un colloque suite à l'année Andrenner qui va être...
C'est pas un colloque, là. Là, c'est la suite du colloque. Le colloque, l'année NER, c'était une année. L'année n'est pas terminée.
D'accord.
L'année 2023 n'est pas terminée. Voilà. Donc, c'est sur l'année 2023 qu'avec trois autres universitaires, nous organisons des conférences une par mois pendant le dernier trimestre.
Il y a autre chose?
Oui.
Vous voulez dire?
Alors, pour le moment, comme vous savez, quand je vous parle, c'est que les choses sont mûries dans ma tête et bien abouties. Aujourd'hui, elles ne sont pas assez mûries, pas encore assez abouties.
On peut savoir donc, dans quel domaine ce sera, au moins?
En tout cas, au moins dans la culture.
D'accord.
Au moins dans la culture. Consacrer une année à un visage.
Ok.
À un personnage qui a marqué l'histoire de la communauté.
D'accord.
Il y a deux personnages dont on parle peu, ou beaucoup selon.
Ouais.
D'accord. Mais dont on n'a plus parlé assez, en tout cas.
Oui.
C'est le grand rabbin Deutsch, Zichrono Livracha,
ouais.
Et le Rav Horowitz, Zichrono Livracha, qui nous ont laissé, ici à Strasbourg, une capacité de rebondir dans notre identité, dans l'authenticité de notre identité après la Shoah, de manière assez exceptionnelle. Et c'est une force pour nous, et pour moi qui suis président du consistoire, c'est une force de pouvoir faire chaque chose en pensant que ces gens-là n'avaient rien pour faire et qu'ils ont fait. Donc aujourd'hui, je me contente de dire j'ai l'obligation de faire aussi. Si mais j'espère qu'on fera encore d'autres choses.
Si je ne pose pas la question, on va me couper les doigts. Macom, ça en est où?
Écoutez, ça aussi, c'est un projet qui avance bien.
C'est-à-dire?
Qui avance bien dans le sens où la dernière difficulté que nous avions et que nous sommes en train d'aboutir maintenant à combler, c'est les fiches d'occupation des surfaces.
D'accord.
Que doivent nous remettre les utilisateurs, les associations, les écoles.
Donc tout ce qui est architecture, etc., c'est bon.
Architecture, ça dépend que de ça.
D'accord.
C'est-à-dire que c'est à partir du moment où on aura ces fiches d'utilisation et ces fiches demandent aux utilisateurs de se projeter
d'accord.
sur les 10-15 prochaines années et de nous dire de combien ils auront besoin de surface.
D'accord.
Et c'est en fonction de ça qu'on fera dessiner des architectes.
Ça devrait pas tarder.
Ce sont des choses qui prennent du temps
d'accord,
et qui sont là
tarder,
pour longtemps.
C'est dans l'année.
Je vous dirais que je voulais...
Ça fait quand même 2 ans qu'on en parle. Hein.
Oui, et si ça prend 1 an de plus, c'est pas très grave si c'est plus abouti.
D'accord.
D'accord.
Mais toujours très prudent voyez, sur ça.
Mais il faut être prudent sur tout. Je vous parlais d'une autre architecture, du site internet, de la numérisation, de la digitalisation de notre fonctionnement. Le site internet est arrivé, il est là,
ouais.
Là, et on a du mal à le remplir parce que les gens... ne mettent pas le contenu qu'on attend d'eux, alors que c'est quelque d'accord. chose qui n'est pas difficile à faire. Il y a une page ouvrable pour chaque association qui voudrait mettre quelque chose
annonce,
sur
exemple.
Ce pont. Sur ce, même pas une annonce. Il y aura sa propre page associative.
D'accord.
D'accord. Vous savez, c'est un grand travail. Quand on parlait du social tout à l'heure, M. Tristan Arama, dans la mission que je lui ai confiée dans le social... C'était pas seulement d'aller rendre des visites aux gens. C'est également
ensemble.
Coordonner toutes ces actions de bienveillance et de bienfaisance que de nombreuses associations ont mis en place à Strasbourg et qu'il faut aujourd'hui coordonner pour ne pas en arriver à faire tout, voire n'importe quoi, mais aussi pour faire encore mieux les choses.
On arrive malheureusement au terme de cette interview qu'on aurait pu faire durer encore des heures et des heures. Vous êtes président du consistoire. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux auditeurs de la radio et pas seulement?
Je voudrais, pour commencer, rappeler ce que j'ai écrit dans le Shabbat Shalom, dans Écho Unir. Dans Écho Unir, j'ai écrit que l'année 5784 a pour acronyme les quatre lettres qui constituent, qui correspondent à 5784 et qui sont Tav, Shin, Pei, Dalet, Tashpad. Cet acronyme, on a souvent l'habitude d'essayer de lui trouver un sens, et un sens positif. Et j'en ai trouvé un grâce à une dame qui s'appelle Sivan Rav Meir, une dame très intéressante, très bienveillante dans ses propos, et qui s'exprime de manière magnifique. Et cette dame a proposé cette lecture de cet acronyme, Tehei Shnat Pritzat Derer. Shnat Pritzat Derer, une année de percée décisive. Eh bien, c'est ce que je souhaite à chacun, que ce soit dans la santé, que ce soit dans la subsistance, dans la parnassa, que ce soit dans la relation à l'autre, que ce soit dans la sécurité, que ce soit dans la paix, que ce soit dans tout ce qui est débat futile sur les réseaux sociaux, que les gens fassent rien de plus, rien de moins cette année, que cette année soit une année de percée décisive et que chacun puisse et chacune puisse être inscrit dans le livre de la vie et que l'année à venir soit une année douce, une année de paix, de santé, de bonheur et de joie.
Merci beaucoup Maurice Dahan, président du consistoire israël de Strasbourg et du Bas-Rhin. Shana Tova à vous, Shana Tova à toute votre famille et particulièrement à votre maman que j'embrasse, à qui je souhaite une très bonne année de bonne santé, de joie et de bonheur. Vous lui transmettrez mon amitié, vous l'embrasserez pour moi.
Je le ferai, Shana Tova également à toute la communauté. Et dans tout ce que je disais tout à l'heure, c'est que si moi je fais une coordination de tous mes élus, on a la chance, l'immense chance d'avoir un grand rabbin qui lui aussi coordonne tout son rabbinat. Et son rabbinat qui était fait d'individualité commence à être fait maintenant, commence à constituer une équipe dont il va être le vrai capitaine et il va lui aussi leur donner un cap. Et ce cap, c'est celui qui fera que notre communauté sera toujours une communauté au top, une communauté d'avenir et une communauté indispensable pour chacun.
Le grand bac qu'on va entendre dans un instant pour parler de Rosh Hashanah. On va demander à Lucas qui a réalisé cette émission de nous passer un petit extrait d'un clip. Vous pouvez en deux mots, Maurice, nous dire de quoi il s'agit.
Alors c'est un clip qu'ont enregistré deux jeunes de notre communauté, David Fedida et Nathan Kahn, que vous connaissez certainement tous. Ils l'ont enregistré dans notre communauté,
à
Rambam en particulier. Et ce clip-là, il est vraiment tellement empreint de sérénité, mais aussi de... J'arrive pas à trouver le mot.
Solennité.
De solennité, vous avez raison, c'est encore plus fort que ce que je voulais trouver comme mot. Et cette solennité, c'est la solennité des fêtes de Tishri qui, j'espère, seront des fêtes que nous passerons dans la sérénité tous ensemble.
Un petit extrait du clip. Merci, Lucas.